Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je vous rejoins dans le confort de votre foyer. Vous l'avez entendu de la bouche de vos candidats, l'accès au logement est l'un des enjeux de la présente campagne électorale. Cet enjeu reste lié au coût de la vie et au transport. On a beaucoup parlé du troisième lien, du REM dans la région de Montréal et même de tramway dans vos médias. Je vous invite à réécouter d'ailleurs notre précédente émission sur l'environnement et les élections. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la crise du logement et à l'aménagement des villes et de leurs banlieues. Comment rendre les municipalités vivantes, accessibles et sensibles aux problématiques de ceux qui y vivent? Là, je pense au vieillissement de la population et aux municipalités amies des aînés, mais aussi aux îlots de chaleur. Il fait chaud dans les villes lors des canicules. Un des moyens de lutter contre le réchauffement climatique passe par le verdissement, planter plus d'arbres et multiplier les parcs. Et mieux vivre en ville et aménager notre territoire de manière durable, c'est une question de politique. Donc nous en parlons tout de suite, restez là. À Je vote pour la science, nous entamons la dernière émission de notre cycle de trois émissions consacrées aux élections provinciales et aux enjeux de science. Aujourd'hui, nous parlons d'urbanisme et un petit peu de transport, vous allez voir. Alors, comment occupons-nous notre espace, particulièrement en temps d'urgence climatique? Pour en parler, nous sommes en compagnie de David Alfaro-Clark, qui est en studio. J'ai la chance de l'avoir en face de moi. Bonjour. Vous êtes urbaniste, vous êtes responsable des affaires publiques à l'Ordre des urbanistes et anciennement fonctionnaire au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la firme Larpent, ça c'est une entreprise collective d'urbanistes, et aussi membre du CCU du plateau Mont-Royal. Rappelez-moi ce que c'est que le CCU.
Oui, c'est le comité consultatif d'urbanisme.
Et nous sommes aussi en compagnie de Guillaume Lessard. Vous êtes docteur en études urbaines, vous êtes actuellement chercheur postdoctoral affilié à l'Université de Waterloo et on vous rejoint à Trois Pistoles, c'est bien ça?
Oui, en direct du bas du fleuve.
Bonjour.
Bonjour.
Donc en matière d'habitation, nous avons longtemps aimé la vie de banlieue et la construction d'unifamiliales en rangée. Pourtant, ces dernières années, nous avons une nouvelle tendance qui se dessine, vous allez me dire si c'est vraiment nouveau, celle de la construction de tours à logement. Les villes s'agrandissent ainsi en densifiant leur centre-ville plutôt qu'en s'étalant. Donc j'aimerais pour commencer faire avec vous un petit bilan sur la manière dont on construit nos villes au Québec et nos habitations. Donc d'abord, comment habitons-nous nos villes en 2022, Monsieur Alfaro-Clark?
Ben, je pense qu'il y a des façons différentes d'habiter la ville. T'sais, c'est sûr qu'il y a les quartiers centraux qui sont bien desservis en transport en commun, qui sont relativement denses, qui ont des services de proximité, que ce soit des commerces, des écoles, des équipements publics, où on peut faire tout à pied ou en transport en commun, mais il y a aussi des secteurs, des villes, surtout des grandes agglomérations, où la densité est plus faible, les distances sont plus grandes, et c'est des secteurs qu'on a construits au cours des dernières décennies, à partir de l'après-guerre, où c'est l'auto, la logique qui structure ces territoires, et où c'est beaucoup plus difficile marcher, et l'offre en transport en commun est moins bonne. Donc, c'est sûr que en plus, il y a la ruralité qui est une autre réalité. Donc, c'est sûr qu'il y a des façons différentes d'habiter la ville.
Oui, Monsieur Lessard, est-ce que la tendance des grands buildings d'habitation, est-ce que c'est une nouvelle tendance?
Non, puis je pense qu'il faut relativiser, parce que ça fait quand même plusieurs années là, que les villes tentent de densifier simplement parce que d'un point de vue financier puis environnemental, c'est logique de le faire. Mais je voulais relativiser parce que le Québec, quand on le compare au reste des grandes, tout au moins les aires métropolitaines de Montréal et Québec, là, quand on les compare aux autres aires métropolitaines canadiennes, se densifie pas tant que ça, c'est-à-dire que le phénomène de l'étalement est encore très présent. On continue encore d'investir beaucoup dans les infrastructures autoroutières. Donc, l'étalement se poursuit quand même, là, malgré l'impression qu'on a qu'il y a de la grande densité qui se construit, surtout en raison de la manière dont on construit la densité. C'est sûr que si on fait des tours à logement, mais qu'on les situe loin des centres urbains, à côté de bretelles autoroutières, entourées de grandes aires commerciales avec des grands stationnements, c'est pas de la densité, quand on regarde ça d'un point de vue territorial, c'est de la densité concentrée en termes d'habitation. Mais quand on regarde ça d'un point de vue territorial, c'est pas si dense que ça. Là.
Oui, je vois M. Alfaré.
Ben, je pense que la question de la mixité est importante. T'sais, la densité, c'est une des conditions nécessaires pour pouvoir se déplacer autrement qu'en auto. En fait, il faut avoir des destinations à proximité. Il faut avoir un dépanneur, une épicerie, mm-hmm. une école. Puis si, justement, si on construit une tour, mais la seule épicerie, c'est un IGA à 2 km, entouré mm-hmm. par un grand stationnement asphalté, ben les gens, ils vont quand même y aller en auto. Puis je pense que c'est pas une réelle densification durable qu'on fait.
Oui, on va en parler. Mais là, nous sommes dans le dernier droit des élections. Donc, selon vous, quels sont les partis avec des choses intéressantes en matière d'aménagement des villes et du territoire? Donc, peut-être, M. Alfaro-Clark, commencez.
Bien, c'est sûr que jusqu'à maintenant, c'est le Parti québécois et Québec solidaire qui ont les propositions les plus étoffées en matière de environnement et aménagement du territoire. Les deux ont sorti des plans changement climatique qui comportent des mesures en aménagement du territoire. Il reste un peu de temps pour la campagne, donc peut-être qu'il va y avoir d'autres propositions qui vont sortir. Mais jusqu'à maintenant, je dirais que c'est ces deux partis qui ont la réflexion la plus aboutie dans la matière.
Selon vous, oui, j'ai vu les 25 000 logements sociaux de Québec solidaire, mais j'ai vu la charte des régions qui est une promesse du Parti libéral aussi, non?
Oui, tout à
donc,
fait.
Chacun, je pense, avance quelques petits pions. Monsieur Lessard, avez-vous vu des choses intéressantes en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire?
Mon constat est similaire, en fait, après avoir regardé ça. Les propositions sont beaucoup plus étoffées, comme le dit David, au niveau de QS et du Parti québécois. Puis, le PLQ a quand même certaines mesures. Par contre, j'ai l'impression que souvent, c'est dans le vocabulaire où est-ce qu'on s'assure qu'il y a toujours la porte ouverte pour que ça soit pas trop clairement défini qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on se trempe l'orteil, là, mais souvent, sans plus. Là.
Ça manque un petit peu de précision, c'est ça, de la part de certains candidats?
Oui, mais je pense, surtout quand j'ai regardé leur plateforme, là, souvent, c'est simplement dans les propositions sont là. Tu sais, je pense, par exemple, ils vont pas dire registre des loyers quand on va parler de la question des loyers. Oui. Là, peut-être qu'on va en parler plus tard. Là, mais donc, on va dire on exige plus de transparence du point de vue des propriétaires. Tu sais, c'est toujours juste dans la manière dont c'est formulé. Là. Mais donc, je pense que le Parti libéral aussi, c'est pas mal.
Mm-hmm. Formulé pour pas trop se compromettre pour après.
Donc, voilà.
En juin 2022, le gouvernement a publié un document, la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, mieux habiter, bâtir notre territoire, une vision stratégique. Il s'agit plutôt d'intentions que de mesures concrètes, mais on peut y lire la volonté quand même de bâtir des milieux sains, durables, à l'échelle humaine et inclusif. À l'horizon de 2042, par contre. Donc, M. Alfaro-Clark, parlez-nous un petit peu de ce document qui est quand même des belles promesses.
Oui, il faut dire que c'est une demande historique de la part de l'Ordre des urbanistes, puis aussi toutes sortes d'autres groupes qui travaillent en aménagement du territoire. Nous, je pense que ça fait 15 ans qu'on milite pour ça. Puis depuis, plus récemment, il y a l'Alliance Ariane, qui est une coalition de groupes qui revendique une telle politique nationale. Donc, c'est une avancée, parce que c'est pour la première fois, le gouvernement du Québec s'est doté d'une vision d'ensemble en aménagement du territoire. Mais en même temps, comme vous dites, c'est vraiment un document d'intention, de vision. On peut y lire certaines mesures un peu plus concrètes, mais il n'y a pas de budget associé, il n'y a pas d'échéancier. Pour l'instant, ça traduit une volonté, mais ça va dépendre vraiment de la mise en œuvre qui va être faite. Mais au niveau des intentions, c'est positif. Tu sais, on reconnaît l'importance, le problème de l'étalement urbain, les empiétements sur les terres agricoles, les milieux naturels. On parle de l'importance d'avoir des milieux de vie complets où on a les services de proximité et aussi des options en transport autres que l'auto. On parle de l'importance des centralités, les centres-villes, les cœurs de quartier, les artères commerciales, les rues principales, de renforcer ces territoires qui sont très importants pour les collectivités. Il y a plusieurs éléments intéressants, mais il faut traduire tout ça en gestes concrets. C'est ça ce qu'on attend.
Oui, Monsieur Lessard, à propos de cette politique nationale donc de l'architecture et de l'aménagement du territoire, c'est le fruit quand même d'une consultation de milieu. Ça fait à peu près 5 ans qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui sont consultés. C'est pas juste le gouvernement qui décide.
Mm-hmm. Oui, au niveau du document, je partage l'avis de mon collègue. C'est bien écrit, je suis d'accord avec les objectifs. Si c'était traduit ensuite, si tout ça se traduit dans les schémas d'aménagement, dans les plans d'urbanisme, dans des grandes mesures fortes, vraiment claires, émises par le gouvernement provincial, qui doivent par la suite être suivies par les aires métropolitaines, les MRC et finalement les municipalités, si vraiment tout cet exercice de concordance était fait par la suite, on serait en bonne voie. Mais si on se fie à la tendance historique, là, ça fait longtemps qu'on émet des bonnes intentions dans le schéma d'aménagement. Par contre, après ça, les municipalités sont souvent libres de d'interpréter ça à leur manière. Je pense au projet 1540, je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu, là, mais le grand centre commercial, que la ville-centre de Montréal était contre ce projet-là, ça va à l'encontre des objectifs, ça va faire de l'engorgement sur les autoroutes, mais puisque il y a une municipalité qui avait avantage à le faire d'un point de vue foncier, le projet était de l'avant. Donc, c'est le genre de choses qui devraient pas se faire, mais étant donné simplement la structure administrative, la structure légale là, au niveau des pouvoirs des municipalités, c'est le genre de choses qui, même si ça va à l'encontre des intérêts de la métropole, ça peut aller de l'avant. Puis je pense que c'est mon impression, en tout cas, là, c'est que ce document-là est un bon pas vers l'avant et il y a des bonnes intentions. Mais après ça, tout ça, c'est dans l'application. C'est un peu là que j'ai peur.
Oui, mais c'est ça, c'est que il fallait peut-être réformer un petit peu la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais aussi il faut accompagner le milieu municipal d'un point de vue financier, mais aussi peut-être technique, j'allais dire même scientifique. Monsieur Altaroukla?
Oui, je pense que toute cette question est très importante parce que, le milieu municipal, il y a 1100 municipalités au Québec, puis il y a des niveaux de ressources et des niveaux de capacité d'expertise qui varient énormément. Donc, c'est sûr que dans beaucoup de municipalités, il y a un défi de vraiment avoir l'expertise à l'intérieur pour aller au-delà de juste être un sorte de contrôle à permis. Et d'être vraiment proactif pour planifier, façonner le territoire. Et il y a la question de développement des connaissances, développement de l'expertise en général, tu sais, de créer les nouvelles bonnes pratiques et les diffuser. Mais je rajouterais aussi un autre élément. On parle beaucoup du rôle des municipalités, mais aussi le rôle du gouvernement du Québec. Et ça, pour l'ordre des urbanistes, on pense que le gouvernement du Québec doit être vraiment exemplaire parce que il y a des mauvaises pratiques qui existent chez les municipalités, mais aussi chez le gouvernement. Si on regarde, par exemple, le Grand Montréal, on a ce qu'on appelle un plan métropolitain de développement qui établit des grandes lignes pour l'aménagement du Montréal métropolitain, du Grand Montréal. Puis, ce document, en fait, on a pris la décision de fixer ce qu'on appelle le périmètre métropolitain. C'est comme la limite urbanisée de la région métropolitaine. Jusqu'à maintenant, cette limite a été bougée une fois. Et c'était à la demande du gouvernement du Québec pour construire un nouvel hôpital à Vaudreuil, donc et en zone agricole. Donc ça, c'est un choix du gouvernement du Québec qui n'était pas cohérent avec nos objectifs, nos orientations en termes d'aménagement. Il y a la question du transport aussi, les prolongements ou les agrandissements d'autoroutes, le troisième lien. Et puis ça, c'est des projets du gouvernement du Québec qui vont dans le sens opposé de ce qu'on veut pour avoir un territoire qui est développé de façon plus durable. Donc, le gouvernement doit vraiment être exemplaire dans ses investissements puis dans tous ses autres programmes politiques. Donc, ça aussi, c'est une attente pour la mise en œuvre de la politique.
Oui, je vous entends bien. Je voudrais qu'on reste quelques minutes encore avec les municipalités parce qu'elles se sont exprimées récemment. Elles avaient des doléances en matière de logements sociaux, de construction d'écoles, d'infrastructures municipales. Est-ce que vous avez entendu ces doléances, M. Lessard, par rapport aux élections et les villes?
Oui, j'avais suivi toute cette saga là, puis évidemment c'est un des thèmes aussi clés qui ressort systématiquement à chaque élection, puis ça fait 30 ans je pense qu'on en parle, mais c'est une réforme du système de taxation là. Les municipalités demandent ça depuis toujours, les scientifiques demandent ça aussi, parce qu'on le sait que si les municipalités, leur seul revenu, c'est les taxes foncières, elles se retrouvent nécessairement dans un conflit d'intérêts par rapport à la gestion du développement, parce qu'évidemment, la manière de générer de nouveaux revenus, la plupart du temps, sur le court terme, ça va être d'ouvrir de nouveaux développements. Puis là, à ce moment-là, on empiète sur des milieux naturels, on empiète sur des terres agricoles. Puis, sur le court terme, ça régénère de nouveaux revenus, mais souvent sur le long terme, selon la forme de développement qui a été choisie. Donc, si on fait de l'étalement, sur le long terme, c'est pas rentable financièrement. Donc, c'est le fameux problème qu'on pèle en avant, là. Donc, on a besoin de nouveaux revenus, on ouvre des nouveaux développements. Ces nouveaux développements-là coûtent très cher à entretenir lorsqu'il faut entretenir les infrastructures. Donc, on ouvre des nouveaux développements. Puis là, la roue continue de tourner. Puis les municipalités, c'est pour ça qu'ils demandent depuis longtemps d'avoir finalement d'autres sources de revenus. Puis Le gouvernement n'a pas bougé sur cette question-là. Puis au niveau du logement social, évidemment, logement social, logement abordable, parfois le gouvernement provincial dit qu'il veut donner plus d'autonomie aux municipalités pour gérer ça. Mais donc, s'ils n'ont pas de source de revenus conséquentes pour leur permettre de faire du logement social, c'est simplement donner une nouvelle responsabilité aux municipalités sans leur donner de nouveaux pouvoirs et de nouvelles capacités financières. Donc, pour moi, c'est donc de leur donner un pelleter un nouveau problème dans leur cours, là, finalement.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On vit actuellement une flambée des prix en matière de logement avec des 4,5 à 1 500 $ par mois pour Montréal. Et là, je ne parle pas en centre-ville parce qu'en centre-ville, c'est plus que ça. Donc, nous manquons de logements sociaux et de logements bon marché. Quelle est la solution, Monsieur Alfaro Clark?
La question de l'habitation est super complexe parce qu'il y a les trois paliers du gouvernement qui sont impliqués. Il y a le fédéral qui encadre et intervient dans les marchés d'habitation, c'est via la Société d'habitation et d'hypothèque, SCHL, la Société d'habitation...
Québécoise?
Non, c'est Société canadienne d'hypothèque et de logement.
Oui.
Et aussi qui est un bailleur de fonds important pour les projets de logements sociaux. Il y a le gouvernement du Québec où, en fait, qui administre les programmes de logement social. Puis il y a les municipalités qui sont responsables de l'aménagement du territoire. Donc c'est complexe parce qu'il n'y a aucun palier qui est pleinement responsable. Mais c'est sûr que l'aménagement du territoire doit être mobilisé pour répondre à la crise du logement, surtout en permettant de construire plus de logements, puis aussi en facilitant la construction de logements sociaux. Je pense que les municipalités ont un grand rôle à jouer pour aider à faire atterrir les projets de logements sociaux.
Oui, c'est important. Monsieur Lesage, je sais aussi que vous êtes spécialiste des politiques d'habitation durable et des réglementations en densification douce. Là, on parle d'unités d'habitation accessoires. Expliquez-moi un petit peu. Donc, à défaut peut-être d'avoir... pas à défaut d'avoir des logements sociaux, parce qu'il en faut aussi, mais on pourrait avoir imaginé des maisons de fond de cour. Je pense qu'il y a des projets déjà là-dessus.
Oui, ben déjà c'est pas un ou l'autre là. La densification peut pas remplacer de la création de logements sociaux et abordables. Par contre, actuellement la crise, c'est pas juste le logement social abordable, c'est toute forme de logement, c'est l'accès à la propriété aussi là. Avec, tu sais, on a des prix qui ont triplé là dans l'aire métropolitaine là, depuis le début des années 2000. Donc, tu sais, les ménages ont de la misère à accéder à la propriété. C'est pas juste une question de locataire. Puis effectivement, des mesures, tu sais, c'est comme si on avait cette mesure qui était disponible puis qu'on n'utilise pas au Québec. Puis c'est surprenant parce que moi, quand je regarde les villes canadiennes là, ce qu'on appelle les unités d'habitation accessoire. Donc, c'est autoriser finalement des deuxièmes unités à être construites sur des lots où traditionnellement, il y avait seulement un bâtiment principal, donc seulement une maison principale. On pourrait rajouter une unité en fond de cour, on pourrait rajouter des logements dans le bâtiment principal, on pourrait rajouter du volume aussi au bâtiment, rajouter un étage, par exemple. Donc, toutes ces mesures-là, on les permet davantage dans les autres municipalités, les autres provinces canadiennes. Puis moi je suis toujours surpris parce que le meilleur cas, je pense, c'est Ottawa puis Gatineau. Quand on pense que d'un côté de la rivière à Ottawa, on autorise ce genre de logement-là, puis de l'autre côté de la rivière à Gatineau, c'est pas permis. Donc ça, moi je trouve ça frappant là à ce niveau-là. Puis c'est comme on a cette ressource-là, ça réglera pas tous les problèmes, mais on a une ressource qu'on ne permet pas de plein droit au Québec. Là, ça commence à bouger. Il y a la ville de Sainte-Catherine qui l'a autorisé sur la rive sud à Montréal. Elle avait été accompagnée par l'ARPAN, puis finalement elle a décidé d'aller de l'avant. Puis il y a d'autres municipalités qui sont dans le processus de le faire, mais c'est quand même un processus réglementaire qui prend quelques années. Mais donc c'est vraiment ça suit les tendances démographiques pour moi, puis ça réglera pas tous les problèmes, mais à tout le moins, tu sais, permettre du logement intergénérationnel pour une population vieillissante, permettre aux gens d'avoir aussi un revenu supplémentaire pour être capable d'endosser leur hypothèque. Puis vraiment là, ça réglera pas tous les problèmes, mais au moins là, permettre au tissu urbain d'évoluer graduellement. C'est sûr que ça va diminuer un peu la pression sur le reste du marché locatif.
Oui, M. Alfaro Clark, quels sont les efforts qui ont été faits dans le passé pour limiter peut-être l'étalement urbain? Vous êtes plutôt favorable à la densification, mais vous soulignez l'importance de mieux l'encadrer pour assurer des milieux de vie de qualité. Expliquez-nous.
Oui, ben c'est sûr que ça fait déjà longtemps que l'étalement urbain est une préoccupation, puis il y a des mesures en termes de politique publique qui visent à le limiter, comme je parlais tantôt du Grand Montréal, où on a un plan métropolitain qui met l'emphase sur la densification, où on fixe le périmètre de ce qui peut être urbanisé, on l'élargit plus, puis on vise à diriger la croissance en termes d'unités d'habitation vers les points d'accès en transport en commun, puis on établit aussi ce qu'on appelle des seuils de densité, donc pour les nouveaux projets, il y a des minimums de densité qu'il faut atteindre. Donc, il y a déjà tout ce cadre en place, mais je pense qu'il y a la question de la qualité qu'il faudrait regarder. Vous l'avez, on en avait parlé tantôt, il y a la question de la mixité. C'est bien qu'on soit plus dense, mais il faut que les services soient à proximité, il faut avoir des espaces publics de qualité, il faut que les rues soient sécuritaires, parce qu'un grand tour à côté d'un boulevard de 6 voies, ça ne fait pas
avec
vraiment...
Avec des familles dans la tour.
Oui, c'est ça, c'est ou des personnes âgées qui prennent du temps à traverser la rue parce qu'ils ne marchent pas vite. Oui. C'est pas idéal comme milieu de vie. Donc, je pense qu'il y a comme une deuxième réflexion à faire. Il y a de plus en plus un consensus en faveur de la densification, mais là, il faut peaufiner les concepts, puis il faut développer les bonnes pratiques en termes de construire des milieux de vie de qualité.
Oui, voir quelle densification on veut. Il y a justement l'enjeu démographique, vous l'avez évoqué, la population vieillit. Donc, comment aménager les villes pour permettre aux aînés de demeurer en ville ou à l'endroit où ils ont passé une large part de leur vie, tout en leur facilitant la vie? Donc, quels aménagements on peut imaginer, Monsieur Lessard?
Ben oui, effectivement, mais pour revenir un peu au sujet de la densification des unités d'habitation accessoires, la densification douce, quand les villes canadiennes que j'ai étudiées, là, Edmonton, Vancouver, Toronto puis Ottawa, dans une grande proportion des cas, quand les gens décident de construire une maison au fond de cour ou de rajouter justement du volume à leur bâtiment, c'est pour des arrangements intergénérationnels. Puis ça, c'est une belle manière justement de collaborer là, au niveau familial pour être capable de s'aider, que ce soit que les personnes plus âgées peuvent parfois prendre soin des enfants, puis aussi bénéficier du soutien de leur famille pour l'entretien du bâtiment, l'entretien du terrain, puis pour le déplacement en ville avec les voitures. Donc, ça, c'est le genre de solution qui permet aux familles de demeurer proches, puis aussi aux bâtiments de répondre aux besoins changeants des ménages. Parce que c'est des bâtiments souvent qui ont été conçus dans l'optique de familles unifamiliales, tu sais, dans les années 50, 60, 70, 80. On a construit ces bâtiments-là, ces quartiers-là, en pensant que ce serait toujours des familles qui demeuraient là, mais les ménages ont de moins en moins d'enfants, les personnes sont en situation de vieillissement. Donc, il faut permettre à ces bâtiments-là, à cette ville-là, d'évoluer avec les besoins changeants des ménages. Puis, je pense que ce genre de mesures-là, donc, autoriser de plein droit ce genre de pratique-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par des dérogations d'urbanisme qui coûtent très cher, qui demandent d'aller chercher des architectes, des urbanistes pour nous accompagner. Donc, autoriser ça de plein droit, je pense que ce serait une belle mesure.
Oui, Monsieur Alvaro Clark, justement, quels aménagements on peut faire pour garder nos aînés dans nos villes, mais aussi qui pourraient profiter aux familles avec de jeunes enfants?
Oui, ben, je pense qu'il y a toute la question de l'aménagement de l'espace public, parce que les personnes âgées se déplacent un peu plus difficilement, ils ont besoin de trottoirs, ils ont besoin d'intersections sécurisées, puis tout ça, c'est particulièrement important pour les personnes âgées, mais c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les parents qui se déplacent avec des poussettes. Je pense que toute cette question d'aménager des villes de façon plus sécuritaire pour les piétons, c'est très important pour tout le monde.
Oui, pour des cyclistes aussi, j'ai croisé beaucoup, beaucoup de parents avec des vélos et des enfants, là, des vélos aménagés. Donc peut-être on ne peut pas évoquer donc, l'urbanisme sans évoquer les transports publics, actifs ou même individuels, que ce soit la construction du REM, la volonté de créer un troisième lien à Québec, donc, parce qu'on construit aussi le long d'un axe de circulation. Mais il faut aussi penser à le dernier enjeu, ce qui est celui des changements climatiques. Donc peut-être Monsieur Lessard.
Oui, ben c'est sûr que moi je trouve ça intéressant quand on parle de troisième lien que souvent quand on en dans les médias, tout le moins, puis quand le gouvernement en parle, c'est comme si on opposait économie et environnement, alors que d'un point de vue économique, le troisième lien, c'est aucun sens. C'est le genre de projet qui va coûter extrêmement cher, qui est vraiment prévu pour le court terme, parce que on le sait, là, toutes les études le montrent, là, il y a des articles qui ont analysé empiriquement là, les villes qui rajoutent du volume en termes d'autoroutes. Ça prend 5 ans avant que ces autoroutes-là soient remplies avec un nouveau volume. volume, ça favorise l'étalement urbain, qui n'est pas une mesure encore qui est économiquement viable pour développer des villes. Puis donc, c'est ce genre de projet qui va coûter extrêmement cher, qui a des bénéfices seulement sur le court terme. Puis pour moi, c'est une stratégie qui est davantage axée sur le marketing politique, c'est-à-dire que la CAQ sait qui est son électorat, c'est des gens en région, en banlieue, puis elle va opposer les intérêts des gens de banlieue aux gens en ville qui disent qu'eux veulent seulement du transport collectif. Donc, et va tabler sur ce genre de projet-là. Puis c'est la même stratégie qu'a utilisé le gouvernement Ford en Ontario, en voulant créer l'autoroute 413. Donc, pour moi, c'est pas une question environnement versus économie. C'est carrément une question
politique
et financière aussi. C'est pas un bon choix financier. C'est un parti qui se dit le parti de l'économie. Et pourtant, il arrive avec ce genre de projet-là qui sont carrément politiques, qui sont pour se faire réélire.
Oui,
Puis c'est sûr que d'un point de vue climatique, ça fait aucun sens non plus.
Oui.
Mais pour moi, c'est pas le principal aspect, avant même de se rendre là et d'en faire un débat idéologique. C'est un projet qui tient pas la route.
Oui, monsieur Alvaro Clark, comment les villes doivent-elles s'adapter au changement climatique en prenant en compte le transport? Parce qu'il faut qu'on se transporte.
Oui, c'est sûr que l'urbanisme doit être pleinement mobilisé dans le contexte de la crise climatique. De un, pour lutter contre les changements climatiques, c'est surtout notre bilan. C'est surtout les transports qui plombent notre bilan en GES et le transport des personnes en particulier. Donc, il faut que les villes développent les alternatives, aménagent le territoire différemment pour que ça soit viable, moins utiliser l'auto, en être moins dépendant. Mais il y a aussi toute la question de l'adaptation parce que on voit de plus en plus les bouleversements en termes de pluie, en termes de sécheresse, en termes de vagues de chaleur, de canicules. Donc, il y a toute une réflexion à faire sur comment adapter nos villes. La question des températures, donc la question du verdissement pour avoir moins chaud lors des canicules.
Oui.
Il y a la question de l'eau. Il y a des municipalités qui ont des difficultés avec l'approvisionnement en eau à cause des sécheresses. Dans certaines régions, il y a toute la question des inondations, que ce soit par les rivières lors de la crue printanière ou l'érosion côtière plus dans l'est du Québec. Donc, ça varie dépendamment de la région, mais je pense que toutes les municipalités doivent faire une réflexion. Le climat change. Comment est-ce que ça va nous affecter? Qu'est-ce qu'on doit changer en termes de nos infrastructures puis en termes de notre façon d'aménager le territoire?
Oui, et qu'est-ce qu'on doit changer au point de vue politique? Probablement aussi.
Oui.
Donc, merci beaucoup. Donc, vous venez de l'entendre. On était en compagnie de David Alfaro Clark, qui est urbaniste, responsable des affaires publiques à l'Ordre des urbanistes, et de Guillaume Lezard, qui est docteur en études urbaines. Donc, on va mettre les liens à tous les deux, de la firme Larpent notamment. Je sais, vous êtes impliqués tous les deux dans cette firme-là. Donc, on va mettre tout ça sur notre page Internet si vous êtes curieux. Donc, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça.
Oui, merci pour l'invitation.
Merci, au revoir.
Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robartcher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Je vous invite à écouter les rediffusions de l'émission à votre radio. Et également sur le site de l'agence Science Presse, l'émission a une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez m'écrire à isabelle@sciencepresse.qc.ca. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien.
Est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.